RCF.
Bonjour et bienvenue sur Pensée juive, une émission animée par les enseignants de l'Institut Rachi. Après ces vacances, nous sommes très heureux de vous retrouver en fait sur dans cette émission. Et aujourd'hui, en fait, sera un peu spécial puisque je vais être seule à l'animer. Enfin, pas tout à fait seule puisque vont m'accompagner Lazare et le Golem. Il s'agit en fait aujourd'hui de réfléchir un peu sur ce que peut bien être la régénération dans les traditions chrétiennes et juives. Et pour cela, je vais essayer de réfléchir avec vous autour des grandes figures de Lazare et du Golem. Alors tout d'abord, si Lazare est assez bien connu en fait de la pensée chrétienne, en tant que ressuscité en fait par Jésus, au bout de nombreux jours en fait après sa mort, la figure du Golem est peut-être un peu plus méconnue et en tout cas elle a été rendue célèbre dans le folklore juif avec le récit fantastique d'un être qui a été créé à Prague au XVIe siècle pour protéger la communauté juive par le rabbi Loé qui n'est autre que le Maharal de Prague. Alors le Golem dans la tradition juive serait un être de glaise, un être artificiel, une sorte d'anthropoïde créé à partir de la combinaison des lettres hébraïques formant les noms divins depuis la connaissance du livre le Sefer Yetzirah ou le livre de la création. Alors le Maharal de Prague aurait conçu cet être puissant afin de protéger la communauté juive des persécutions et des pogroms. Alors vous devez vous représenter le Golem comme un être qui est fait uniquement de glaise, c'est-à-dire qu'il est puissant. Il n'a que la force de la matière, la force de la terre, mais sans nécessairement en avoir une conscience. Et c'est là, évidemment, qu'il va y avoir toute une réflexion autour de la régénération, puisque donc le Golem a été créé pour protéger la communauté juive des persécutions et des pogroms, et il est écrit sur son front « Emet » en hébreu, « Emet » qui veut dire « vérité », et est introduit dans sa bouche un parchemin sur lequel est inscrit le nom ineffable de Dieu. Alors, le Golem a pour fonction de servir, et pour le désactiver, parce que parfois il faut le désactiver, le rabbi retire de son front le Aleph, la première lettre de Emet, et ce qui va nous donner Met, qui veut dire mort en hébreu. Donc soit la vérité, soit la mort. Mais une fois, un jour, après l'entrée de Shabbat, le rabbi oublie complètement de désactiver le Golem, qui alors va tout dévaster dans la communauté, ce qui va pousser son maître et créateur à le détruire. Alors cette histoire va entrer dans le folklore juif d'Europe de l'Est et va donner naissance, notamment plus tard, au mythe de Frankenstein. Alors a priori, peut-être que vous êtes dans votre voiture ou en train d'écouter cette émission et vous vous dites, mais quel peut bien être le lien entre Lazare et le Golem ? Quel peut être le lien entre Lazare ressuscité et le Golem, cet être sans âme, qui est uniquement animé des forces de la terre sans conscience. Quel peut être le rapport entre une histoire folklorique, teintée d'ailleurs de pratiques un peu magiques, avec un acte miraculeux de résurrection? Je vais essayer, en fait, pendant cette émission, de m'attacher aux sources de ce récit populaire, notamment les sources talmudiques, et de ses interprétations médiévales, dont celle de Rachi, pour essayer d'approcher ce thème principal qui est celui de la gestation, de l'état d'entre-deux, entre la vie et la mort. Alors, pour en revenir aux sources, la première occurrence du mot golem apparaît dans les psaumes. Donc psaume 139,16, où on lit « Tes yeux me voyaient quand j'étais une masse informe », alors ça se dit « galmi » en hébreu, et sur ton livre se trouvaient inscrits tous les jours qui m'étaient réservés, avant qu'un seul fût éclos. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'avant même son achèvement, à l'état encore embryonnaire, c'est-à-dire avant même de lui insuffler son âme, Dieu révéla à Adam le livre de ses jours, le déroulé de son temps de vie. Golem est un être inachevé, entre la vie et la mort, encore incapable de se mouvoir lui-même. C'est un Adam, Adam veut dire être humain en hébreu, constitué de Adama, qui veut dire la glaise, la terre rouge, en attente de recevoir le souffle vital. Golem est alors un ouvrage en attente de son achèvement. C'est un être en construction. Et dans cette attente, il est conscient du déroulé de ses jours, et c'est dans cette contradiction que réside son immobilité. Son temps n'est pas encore là, qu'il en connaît déjà l'inscription. Mais sans pouvoir lui donner sens. Et c'est là, en fait, toute la paralysie également, en fait, du golem. C'est le fait d'être immobilisé dans un état embryonnaire, incapable de muter, de se transformer, qui le conduit à la paralysie et, comme on le voit dans le folklore juif, à sa destruction. Et peut-être que c'est en cela que Jésus, lui, va ressusciter Lazare. Peut-être que Lazare, avant la résurrection, est cet état de mort-vivant, mort-vivant au sens où il est incapable de parler, parce que si on se rappelle les versets bibliques de la résurrection de Lazare, Jésus dit « Lazare, sort », et Lazare sort avec encore ses bandelettes, mais sans exprimer un seul mot. Il est comme frappé de mutisme, il est paralysé. Donc on pourrait en ce sens interpréter la mort de Lazare comme une sorte d'allégorie de la paralysie. Lorsque Jésus dit « Lazare, sort, lève-toi », par le souffle de ses paroles, il brise le cercle vicieux de l'immobilité et il va le sortir de la paralysie physique, morale et spirituelle. Pour le dire autrement, d'un embryon d'humain, Lazare va naître à son humanité en sortant de son état de golem. En ce sens, les versets de l'évangile de Jean pourraient être lus comme un commentaire, peut-être, des ossements desséchés d'Ézéchiel, si on relit le psaume 139. Que dit Ézéchiel, donc en 37:10, il est dit « Fils de l'homme, ses ossements, c'est toute la maison d'Israël. Ceux-ci disent « Nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, c'en est fait de nous. » Eh bien, prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que je rouvre vos tombeaux, et je vous ferai remonter de vos tombeaux au mon peuple, et je vous ramènerai au pays d'Israël. Comment lire ceci? Cela voudrait dire que si on rattache la paralysie du golem au mutisme de Lazare avec ce verset des ossements desséchés, cela veut dire que sans espoir, en exil, il ne reste que des os desséchés du peuple d'Israël, innervés et sans chair. La prophétie d'Ézéchiel a pour vocation la résurrection d'Israël en tant que peuple, depuis celle de tous ses membres qui sortent littéralement de leur tombeau, c'est-à-dire qui reprennent vie. Le golem est exactement, alors, le miroir inversé de ses ossements desséchés. Pour le raccrocher et pour le relire depuis l'épisode de Lazare, on pourrait dire que Lazare lui-même était malade. Il était malade et il en est mort. Que fait Jésus? En lui redonnant vie, il remet de la chair sur les os desséchés, non pas desséchés par la mort, mais par la maladie. En lui redonnant vie, il lui permet de retrouver le fil de sa propre vie, de ses générations, à l'état encore embryonnaire, ce qui est peut-être la raison de son silence. Il est golem, qui naît à une nouvelle vie, non pas dans un acte de réanimation, mais de création d'une vie nouvelle, qui n'est pas encore consciente d'elle-même. Et c'est depuis en fait cette réflexion autour d'un acte de création de nouvelle vie qui pourrait être le symbole en fait de nos propres actes de création dans la vie quotidienne vis-à-vis de nous-mêmes que nous allons faire une première pause musicale et écouter un morceau du groupe Anachronique Electro Orchestra qui a été créé par l'excellent David Krakauer et nous allons entendre 25 signes de l'album Fireflies. Thank you. Et nous sommes de retour sur Pensée juive avec, pour cette émission de rentrée, une réflexion autour de la régénération dans les traditions juives et chrétiennes, autour des figures de Lazare et du golem. Donc nous avons vu en fait que le golem est un être de glaise qui, dans la tradition juive, notamment talmudique, représenterait en fait un état d'entre-deux, un être encore embryonnaire qui ne demande qu'à naître. Et Lazare, dans la tradition chrétienne, le Lazare ressuscité serait peut-être le symbole en fait de la résurrection qui pourrait nous attendre à chaque instant à une nouvelle vie, mais qui ne serait pas encore consciente d'elle-même, qui serait d'ailleurs la raison de son mutisme. Si nous nous rappelons cet épisode de Lazare, Lazare est enterré depuis 4 jours. 4 jours, en fait, ça a une charge symbolique très forte dans le judaïsme. Si on se rappelle un passage du traité Sanhédrin, donc en traité Sanhédrin 38b, on peut lire que, je cite, donc Rabbi Aha, fils de Hanina, a dit « La journée à 12 heures. À la première heure a été réunie sa poussière. À la deuxième, elle est devenue masse de matière informe, rappelez-vous, golem. À la troisième, ses membres en ont été étirés. À la quatrième, c'est l'âme qui lui a été versée. À la cinquième, il s'est mis debout sur ses jambes. » Alors, on pourrait peut-être établir un système d'équivalence entre la journée en temps humain et l'heure en temps symbolique de la vie d'un être humain. Et en ce sens, le chemin de Lazare serait le chemin inverse de la création. Lazare serait mort, rétrogradant à sa première heure de vie, depuis laquelle Jésus va inverser le processus, 4 jours après sa mise en terre, en le remettant sur ses jambes le cinquième jour. Alors, ce quatrième jour, ou la quatrième heure de la vie humaine, c'est le moment où l'âme est versée. L'âme est versée dans un processus en fait, de passage de la mort à la vie, tel que décrit dans le Talmud, qui pourrait, comme on va le voir, qui pourrait représenter le cœur de la régénération particulière de Lazare. Dans le Talmud, cette fois-ci, en fait, toujours dans le traité Sanhédrin, cette fois-ci en 65b, on peut lire quelque chose d'assez étonnant, en fait, dans un traité qui traite de la nécromancie. On pourrait se dire, c'est assez étonnant. Nécromancie où Rabba, en fait, s'interroge sur la nécromancie en disant, je cite, « Si les hommes voulaient être des justes, absolument purs de toute faute, ils seraient capables de créer un monde. » Ainsi qu'il est dit, ce sont vos fautes qui ont fait la différence entre vous et votre Dieu. Rabba avait créé un homme et l'a envoyé chez Rabbi Zera. Celui-ci lui avait parlé, mais l'autre ne lui répondait pas. Il lui a dit alors, « Tu n'es qu'une créature de la sorcellerie, retourne à ta poussière. » Rabbi Hanina et Rabbi Oshaya s'adonnaient chaque veille de Shabbat à l'étude du Sefer Yetzira, et ils créaient ainsi un veau de la taille d'un animal de 3 ans, et ils s'en nourrissaient. Alors, voilà comment Rashi, grand commentateur juif de Troyes, en a fait le commentaire. Il commente « Rabba créa un homme ». Voilà ce que dit Rashi par le Sefer Yetzira qui lui enseigna l'assemblage des lettres du nom. « Et il ne répondait pas », dit le texte. Rashi commente « car il n'était pas doté de parole ». Le texte dit « à partir des associés ». Rashi dit « tu as été créé par des associés ». Des raverim, c'est-à-dire des amis. Les associés, c'est des gens qui s'associent, qui sont amis. Et a été créé un veau triple. Et là, Rashi, on se rappelle peut-être du Rashi qui connaissait bien les foires de Champagne et qui décrit en fait ce veau en disant « grand comme s'il avait atteint le tiers de ses années de croissance et qu'il a terminé sa croissance. » Ou bien comme les veaux de qualité que l'on fait monter dans un enclos et on le fait tripler par sa taille. Ou bien qu'il était de qualité et de goût comme un troisième nez, c'est-à-dire succulent. Alors, dans ce passage talmudique concernant les règles du droit commun, est traitée, donc, comme je vous le disais, la question de la nécromancie et du commerce avec les morts. Alors, évidemment, qui est complètement prohibée dans le judaïsme. En fait, il y a une pratique qui consisterait à jeûner pour être temporairement possédé d'un esprit d'impureté afin de l'interroger. Donc, la souffrance du corps affamé est une condition de la nécromancie qui est, encore une fois, prohibée par la loi juive. Et juste avant ce commentaire sur la création d'un être de glaise, Rabbi Akiba dit que pleure en prenant conscience de cette pratique. Il pleure en disant « Mais si une personne jeûne pour recevoir un esprit d'impureté, ce qui est complètement grotesque et horrible, combien en fait une personne qui jeûne pour recevoir l'Esprit Saint devrait le recevoir. Et c'est ce contraste entre une pratique réelle prohibée et une pratique idéale qui n'est pas encore réalisée qu'on doit lire l'expérience racontée par Rabat. Donc cette expérience consiste à créer un être par Rabat et un être qui va être détruit par son associé qui va dire « il ne parle pas, donc je vais le détruire ». Alors Rabat est présenté comme un juste capable de créer, suivant le même procédé divin, un nouvel être depuis la glaise dont il est constitué. Alors, là, on est dans une pratique tout à fait sainte qui consiste à se servir du souffle des lettres hébraïques qui donnent vie, ou tout au moins qui mettent en mouvement un nouvel être. Or, cet être ne parle pas. Rappelez-vous, Lazare ne parle pas plus. Il est tout autant dans le mutisme. Donc cet être ne parle pas, et c'est ce qui va décider Rabbi Zera, donc l'associé de Rabbi Hana, Rabbi Zera, lui, va le faire retourner à la poussière. Il va lui reprendre le souffle. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ce n'est pas ce que projettent les grands prêtres par rapport à Lazare ? On se rappelle en fait le texte de Lazare où il est dit que les prêtres veulent que Lazare retourne à cette poussière. Il y a quelque chose qui est très gênant en fait dans cette régénération de Lazare. Alors, pourquoi une telle décision ? Bah, précisément pour la même raison, parce que Lazare ne parle pas. L'absence de parole, et donc de sens, est interprétée dans le Talmud par Rabbi Zera comme une pratique magique, voire idolâtre. Une utilisation indue des noms divins constitués de ces lettres. Pour le dire autrement, l'absence de parole serait le signe d'une absence de sens, et donc de souffle, de vie, et cet être devrait donc retourner à l'état qu'il n'aurait jamais dû quitter, celui de la poussière, de la glaise sans souffle et sans âme. Le golem serait donc bien cet être embryonnaire, un être qui n'aurait pas pu franchir le stade du quatrième jour. Ce serait l'être qui serait uniquement celui des forces de la terre, auquel ne serait pas associé l'esprit. Il ne serait qu'une pure imitation de la création d'Adam sans le souffle divin. N'est-ce pas le soupçon des grands prêtres sur la régénération de Lazare, selon eux, et qui s'appuient sur cet épisode talmudique, Lazare n'aurait peut-être pas, comme le golem, quitté la terre dont il était censé sortir, et il ne serait animé que d'énergie purement matérielle et non pas par l'esprit. En gros, Lazare serait un automate, un homme mis en mouvement par artifice. Et pourtant, une autre interprétation depuis le Talmud se superpose à celle-ci, et cette interprétation, nous allons l'écouter après une seconde pause musicale, toujours animée par le groupe de David Krakauer, Anachronic Electro Orchestra, et nous allons écouter Tears Run Dry de l'album Fireflies. Et nous sommes de retour sur Pensée juive avec, pour cette émission de rentrée, une réflexion autour de la régénération dans les pensées juives et chrétiennes autour des figures de Lazare et du golem. Donc, dans une seconde partie d'émission, on a découvert en fait qu'il avait pu y avoir un lien entre Lazare et le golem, au sens où la résurrection de Lazare pouvait parfaitement s'inscrire dans des pratiques habituelles, alors habituelles entre guillemets, telles que décrites dans le Talmud, où des rabbins, des justes, sont capables de faire naître ou de créer un être de glaise, mais incapable de parler, incapable de subvenir à ses propres besoins, frappé de mutisme, parce qu'encore fait de glaise, sans encore avoir le souffle vital. Et on a vu que c'était cette interprétation qui aurait poussé les prêtres, les grands prêtres, donc dans le récit de Jean, à vouloir mettre à mort Lazare en même temps que Jésus, pour la bonne raison qu'il s'agirait d'une pratique indue de la permutation des lettres hébraïques en s'appuyant eux-mêmes sur des passages de la Torah orale. Maintenant, une autre interprétation, depuis le Talmud lui-même, pourrait se superposer à celle-ci, celle de la création d'un monde, d'un être par le juste. Et cette création serait même la preuve matérielle de la réussite du juste dans son travail intérieur sur lui-même. Et c'est dans cette perspective qu'on peut interpréter le commentaire de Rashi. Rabba, selon Rashi, grâce à la permutation des lettres, a créé sur trois niveaux. Il a créé un monde, un homme et un veau. Un veau. On va voir pourquoi. En tout cas, le tzaddik, le juste en hébreu, par ses purifications et sa connaissance de la Torah, non seulement dans son aspect d'étude, mais surtout de loi, est capable de créer. Créer un monde, celui dans lequel il évolue. Créer un homme, un être doué de mouvement. Et un veau, qui sera, comme on l'a vu dans l'épisode talmudique, mangé pour Shabbat, le jour du repos. Et le veau est lui-même triple, selon Rashi. Grand comme s'il avait atteint le tiers de ses années de croissance et qu'il a terminé sa croissance, ou bien comme les veaux de qualité que l'on fait monter dans un enclos et que l'on fait tripler sa taille, ou bien de qualité et de goût comme un troisième nez. Alors la triple dimension de création, monde, homme, veau, se triple encore dans ce troisième terme qu'est le veau. Alors pourquoi cet animal? Pourquoi un veau? Alors peut-être, il s'agit d'une pure interprétation, mais peut-être pourrions-nous nous rappeler le commentaire de Rashi d'Exode 38-21. Alors dans Exode 38-21, on décrit le tabernacle et la distribution du tabernacle. Voilà le commentaire qu'en fait Rashi. Telle est la distribution du tabernacle, résidence du statut, comme elle fut établie par l'ordre de Moïse, tâche confiée aux Lévites, sous la direction d'Itamar, fils d'Aaron le pontife. Tabernacle du témoignage, et c'est ça qui est très important, témoignage pour Israël que le Saint béni soit-il a renoncé à le punir pour l'affaire du veau d'or, puisqu'il a fait résider sa chérina parmi eux, c'est-à-dire sa présence parmi eux. Alors, si on lit ce commentaire de Rashi, on voit que le redoublement du mot tabernacle témoigne du pardon des fautes d'Israël, symbolisé par l'épisode du veau d'or. Donc la création d'un veau, depuis ce commentaire, serait peut-être l'attestation de la réparation effective du monde depuis la parole créatrice du juste, qui prendrait alors trois formes dans la production du golem, un monde, un homme et le pardon. Le golem contiendrait alors en germe le monde messianique lui-même, que le juste, par sa pensée et ses actions, pourrait produire. Il représenterait l'attestation du temps messianique depuis la tribu de justice. Alors, quelques années après ce commentaire de Rashi, Éléazar de Worms, rabbin allemand du XIIe siècle, précise cette description du golem comme attestation de la venue des temps messianiques par les actions des justes. Alors on va écouter Éléazar de Worms qui explique « Dans les temps à venir, ce sont les justes qui provoqueront la résurrection des morts, comme Élie, Élisée et Ézéchiel. Ainsi qu'il est écrit, le sceau sera changé en argile. » Alors pourquoi n'est-il pas écrit « fait » plutôt que « changé » Parce que le verset fait allusion aux justes qui savent créer en utilisant les combinaisons des lettres et ils créent un homme grâce au Sefer Yetzirah, mais il ne ressemblait pas à l'homme créé par Dieu dans sa sagesse. Et donc s'il pêche, le goulem retournera à la poussière. Alors depuis ceci, on pourrait dire que la régénération de Lazare, dans l'évangile selon saint Jean, serait un événement majeur dans la temporalité christique. Elle marque un entre-deux, un décrochage de deux types de temporalité. Lazare ne parle pas à la manière d'un golem, d'un être fait d'argile, sans conscience. Et il serait alors régénéré dans la temporalité de la finitude de l'être pour la mort. Mais il marque aussi le passage à la temporalité messianique, c'est-à-dire celui de la justice, où, dans cette temporalité, il y a une place pour le golem, une place pour cet être qui aurait le droit d'exister. Lazare serait alors vivant et mort à la fois, comme un embryon de vie, depuis la dimension depuis laquelle on le regarde, et il marquerait l'entrée dans le temps de Pâques, de la libération de l'esclavage pour les Hébreux, et de la résurrection dans le Christ pour le christianisme. Si Lazare est l'homme du quatrième jour, celui de l'entre-deux, entre son argilité et la gestation de son âme, Jésus est celui du troisième jour, permettant la jonction du terrestre et du céleste, du monde tel qu'il est au monde de justice. Et le passage de l'un à l'autre passerait par un acte créateur, celui du juste, tel qu'il est décrit dans le Talmud. Voilà une petite réflexion que l'on peut avoir à la rentrée autour de Lazare et du golem. Et avant de terminer cette émission, quelques événements du mois de septembre. Tout d'abord, le 7 septembre, à l'Institut Rachi, nous organisons une journée portes ouvertes avec une présentation du programme et du tout nouveau site internet à 16h30, où vous êtes tous cordialement invités. Le 12 septembre commencent les cours à l'Institut Rachi. Le 15 septembre a lieu la conférence inaugurale par Armand Abécassis sur les derniers jours de Moïse, son dernier livre. Mais un peu avant, à 18h, nous pourrons le rencontrer où il présentera en fait sa présidence, puisque Armand Abécassis est le nouveau président de l'Institut Rachi. Donc, 7 septembre, journée portes ouvertes, et 15 septembre, conférence inaugurale. Je vous souhaite à tous un excellent mois, une excellente journée, et à très bientôt sur Pensée Juive.